Mais je me suis promis de raconter sur ces événements lointains toute la vérité. Et la vérité est indivise, elle brille de sa propre évidence et ne consent pas d'être réduite par nos intérêts et par notre honte. Le problème est plutôt de dire ce qui se passa, non point comme je le vois et me le rappelle à présent, même si je me rappelle tout avec une impitoyable vivacité, et je ne sais si ce fut le repentir qui fixa d'une façon si vivace faits et pensées dans ma mémoire, ou l'insuffisance de ce même repentir qui encore me tourmente, donnant vie dans mon esprit affligé à la moindre nuance de ma honte, mais comme je le vis et le sentis alors. Et il m'est loisible de le faire avec une fidélité de chroniqueur, car si je ferme les yeux, je peux tout répéter de ce que je fis et même pensais en ces instants, comme si je copiais un parchemin écrit alors. Il me faut donc ainsi aller de l'avant, et que saint Michel Archange me protège, parce que pour l'édification de mes lecteurs futurs et la fustigation de ma faute, je veux raconter maintenant comment un jeune homme peut donner dans les trames du démon, afin que ces dernières puissent être connues et manifestes, et que celui qui encore donne dedans puisse les défaire. C'était donc une femme, que dis-je, une toute jeune fille. Ayant eu jusqu'alors et depuis lors, grâce en soit rendue à Dieu, peu de familiarité avec les êtres de ce sexe, je ne sais dire quel âge elle pouvait avoir. Je sais qu'elle était jeune, presque adolescente, peut-être avait-elle 16 ou 18 printemps. Elle tremblait comme tremble un oisillon l'hiver, et pleurait, et avait peur de moi. Ainsi, pensant que le devoir de tout bon chrétien est de secourir son prochain, je m'approchai d'elle avec grande douceur, et en bon latin je lui dis qu'elle ne devait avoir nulle crainte, parce que j'étais un ami, en tout état de cause, pas un ennemi, certainement pas l'ennemi qu'elle redoutait sans doute. Peut-être à cause de la mansuétude qui émanait de mon regard, la créature se calma et vint à moi. Je m'aperçus qu'elle ne comprenait pas mon latin, et d'instinct je lui adressai la parole dans mon allemand vulgaire, ce qui l'effraya au plus haut point, je ne sais si à cause des sons âpres, inusités chez les gens de cette contrée, ou parce que ces sons lui rappelaient quelque autre expérience avec des soldats de mes terres. Alors je souris, considérant que le langage des gestes et du visage est plus universel que celui des mots, et elle s'apaisa. Elle me sourit elle aussi et me dit 2 ou 3 mots. Je connaissais très peu sa langue vulgaire. Elle était en tout cas différente de celle que j'avais en partie apprise à Pise. Toutefois, je m'aperçus d'après le ton qu'elle me disait des mots doux et me sembla-t-il quelque chose comme « Toi, tu es jeune. Toi, tu es beau. » Il arrive rarement à un novice qui a passé toute son enfance dans un monastère d'entendre des déclarations sur sa beauté. On est plutôt bien averti que la beauté corporelle est fugace et qu'il faut la tenir pour fort vile. Mais les trames de l'ennemi sont infinies, et j'avoue que cette allusion marquée à ma vénusté, pour mensongère qu'elle fût, pénétra avec vive douceur dans mes oreilles et me donna une irrépressible émotion. D'autant qu'en disant cela, la jeune fille avait tendu la main vers moi et, du bout de ses doigts, effleuré ma joue, alors complètement imberbe. J'en éprouvais comme une impression de défaillance, mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à ressentir l'ombre d'un péché dans mon cœur. Tant peut le démon quand il veut nous mettre à l'épreuve et effacer de notre âme les traces de la grâce. Qu'éprouvais-je? Que vis-je? De cela, je me souviens. Les émotions du premier instant furent dénuées de toute expression, parce que ma langue et mon esprit n'avaient pas été éduqués à nommer des sensations de ce genre. Jusqu'au moment où il me souvint d'autres paroles intérieures, entendues en d'autres temps et en d'autres lieux, à coup sûr dites pour d'autres fins, mais qui me semblèrent admirablement s'harmoniser avec le plaisir de ces instants-là, comme si elles étaient précisément nées pour l'exprimer. Des paroles qui s'étaient pressées en foule dans les cavernes de ma mémoire s'exhalèrent à la surface muette de mes lèvres, et j'oubliais qu'elles avaient servi dans les Écritures ou sur les pages des saints à exprimer des réalités combien plus flamboyantes. Mais au vrai, y avait-il une telle différence entre les délices dont avaient parlé les saints et celles que mon âme troublée éprouvait en cet instant? En cet instant s'annula en moi le sentiment vigilant de la différence, qui est précisément, ce me semble, le signe du ravissement dans les abîmes de l'identité. D'un coup, la jeune fille m'apparut ainsi que la Vierge Noire, mais toute belle dont parle le cantique. Elle portait une pauvre robe élimée de toile écrue, qui s'ouvrait assez impudique sur sa poitrine et au cou un collier de menues pierres colorées et, je crois, sans valeur aucune. Mais sa tête se dressait fièrement sur un cou blanc comme une tour d'ivoire, ses yeux étaient clairs comme les piscines de Hécébon, son nez était une tour du Liban, les nattes de son chef comme la pourpre. Oui, sa chevelure m'apparut comme un troupeau de chèvres, ses dents comme des troupeaux de brebis qui remontent du bain, chacune à sa jumelle, si bien qu'aucune d'elles ne primait sur sa compagne. « Et que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle !» me pris-je à murmurer. « Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes de Galaad, tes lèvres comme un ruban de pourpre, tes joues des moitiés de grenade. Ton cou est comme la tour de David où sont suspendues 1000 rondaches. » Et je me demandais, épouvanté et ravi, quelle était celle-ci surgissant devant moi comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil. Terribilis ut castrorum acquies ordinata. Alors la créature s'approcha encore plus de moi, jetant dans un coin le paquet sombre qu'elle avait jusqu'alors tenu serré contre sa poitrine, et elle leva encore une main pour caresser mon visage, et elle répéta encore une fois les mots que j'avais déjà entendus. Et tandis que je ne savais pas si la fuir ou m'approcher davantage encore, tandis que ma tête palpitait comme si les trompettes de Josué allaient faire crouler les murs de Jéricho, et qu'en même temps je désirais et tremblais de la toucher, elle eut un sourire de grande joie, émit un gémissement étouffé de chèvre attendrie, et des fils et lacets qui retenaient encore sa robe sur sa poitrine, qu'elle fit glisser de son corps comme une tunique, et elle resta devant moi, comme Ève devait être apparue à Adam au jardin de l'Éden. « Pulcra sunt ubera, quae paululum super eminent et tument modice » murmurai-je, répétant la phrase que j'avais entendue de la bouche d'Hubertin. Car ses seins m'apparurent comme deux fans, jumeaux d'une gazelle qui paissait parmi les lys. Son nombril fut une coupe ronde où le vin drogué ne manque jamais. Son ventre, un monceau de froment entouré de fleurs des vallées. « Ô si douce clarum puellarum !» lui criai-je. « Ô porta clausa, fons ortorum, quelia custos, unguentorum, quelia pigmentaria !» Et je me retrouvai sans le vouloir contre son corps, dont je sentais la chaleur et le parfum âcre d'onguent inconnu de moi. Je me souvins, « Fils, quand vient l'amour fou, rien ne peut l'homme. » Et je compris que, ce que j'éprouvais fût-il trame de l'ennemi ou don céleste, je ne pouvais désormais rien faire pour contrecarrer l'impulsion qui m'emportait. Et « Oh, langueo !» criai-je, et « Causa languoris, video nec caueo !» C'est qu'aussi un parfum de rose s'exhalait de ses lèvres, et ils étaient beaux, ses pieds dans ses sandales, et ses jambes étaient comme des colonnes, et la courbe de ses flancs comme un collier, œuvre des mains d'un artiste. « Ô amour, fille de délices, un roi est pris à tes boucles, » murmurai-je en moi. Et je fus dans ses bras, et nous tombâmes ensemble sur les dalles nues des cuisines, et je ne sais si de ma propre initiative ou grâce à son art à elle, je me trouvais libéré de ma robe de novice, et nous n'eûmes point honte de nos corps, et cuncta errant bona. Et elle me baisa des baisers de sa bouche, et ses amours furent plus délicieuses que le vin, et l'arôme de ses parfums m'enivrait de délices, et son cou était beau, entouré de perles, et ses joues cerclées de pendentifs. « Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, disais-je. Et laisse-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est harmonieuse, et ton visage enchanteur. Tu m'as fait perdre le sens, ma sœur, tu m'as fait perdre le sens. D'un seul de tes regards avec une seule gemme de ton cou, tes lèvres distillent un rayon de miel. Le miel et le lait sont sous ta langue, le parfum de ton souffle est comme celui des pommes, tes seins en grappe, tes seins comme des grappes de raisin. Ton palais, un vin exquis qui pique droit sur mon amour et coule sur les lèvres et sur les dents. Fontaine de jardin, nard et safran, cannelle et cinnamome, myrrhe et aloès. Je mangeais ma gaufre et mon miel, je buvais mon vin et mon lait, qui était donc celle-ci qui surgissait comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons. Ô Seigneur, quand l'âme se voit ravie, alors la seule vertu est d'aimer ce que tu vois, n'est-ce pas? La plus haute félicité et d'avoir ce que tu as. Alors la vie bienheureuse se boit à sa source. Ne l'a-t-on pas dit déjà ? Alors on savoure la vraie vie qu'après cette vie mortelle, il nous reviendra de vivre auprès des anges dans l'éternité. Voilà ce qui sillonnait mon esprit, et il me semblait que les prophéties se réalisaient, enfin, tandis que la jeune fille me comblait de douceurs indescriptibles, et mon corps était devenu tout entier un œil devant et derrière, et je voyais tout ce qui m'entourait d'un seul coup. Et je compris que par lui, qui est l'amour, se produisent à la fois l'unité et la suavité, et le bien, et le baiser, et l'embrassement, comme je l'avais déjà entendu dire, croyant qu'on me parlait d'autre chose. Et pendant un seul instant, quand ma joie allait toucher son zénith, il me souvint que j'étais peut-être en train d'expérimenter, et de nuit, la possession du démon méridien, condamné enfin à se montrer dans sa nature même de démon, à l'âme qui en extase demande « Qui es-tu ?» Lui qui sait ravir l'âme et illusionner le corps. Mais aussitôt je fus convaincu que mes hésitations, elles, oui, étaient diaboliques, car rien ne pouvait être plus juste, plus délicieux, plus sain que ce que j'éprouvais maintenant et dont la douceur augmentait d'instant en instant. Comme une petite goutte d'eau instillée dans une grande quantité de vin se dissipe tout à fait pour prendre couleur et saveur de vin, comme le fer incandescent et enflammé devient tout semblable au feu, perdant sa forme primitive, comme l'air inondé par la lumière du soleil est transformé en la plus grande splendeur et en la même clarté, au point de ne pas paraître illuminé mais être lumière lui-même, ainsi je me sentais mourir de tendre liquéfaction, si bien qu'il ne me resta plus que la force de murmurer les paroles du psaume. « Voici, ma poitrine est comme le vin nouveau, sans ouverture, qui brise les outres neuves. » Et aussitôt, je vis une éclatante lumière, et en elle, une forme couleur du saphir qui s'enflammait tout entière d'un feu rutilant et très suave. Et cette lumière splendide se dissémina complètement dans le feu rutilant, et ce feu rutilant dans cette forme resplendissante. Tandis que, presque évanoui, je tombais sur le corps auquel je m'étais uni, je compris dans un ultime souffle de vitalité que la flamme consiste en une splendide clarté, en une vigueur innée et en une ardeur ignée. Mais la splendide clarté, elle, la possède pour briller et l'ardeur ignée pour brûler. Puis je compris l'abîme et les abîmes ultérieurs qu'il invoquait. À présent que, d'une main tremblante, je ne sais si c'est pour l'horreur du péché dont je parle ou pour la coupable nostalgie du fait que je remémore, j'écris ces lignes. Je m'aperçois que j'ai utilisé les mêmes mots pour décrire mon extase abjecte de cet instant-là que pour décrire quelques pages plus haut le feu qui brûlait le corps martyr du fratricel Michel. Et ce n'est pas un hasard si ma main, exécutrice soumise de l'âme, a couché par écrit les mêmes expressions pour deux expériences aussi dissemblables, car il est probable que je les ai vécues de la même façon alors, et il y a un instant, quand je cherchais à les faire revivre toutes les deux sur le parchemin. Il est une mystérieuse sagesse en raison de quoi des phénomènes entre eux disparates peuvent être nommés avec des mots analogues, la même sagesse en raison de quoi les choses divines peuvent être désignées avec des noms terrestres et par des symboles équivoques, Dieu peut être dit lion ou léopard, et la mort blessure, et la joie flamme, et la flamme mort, et la mort abîme, et l'abîme perdition, et la perdition défaillance, et la défaillance passion. Pourquoi moi, jeune homme, nommais-je l'extase de mort qui m'avait frappé dans le martyr Michel avec les mots dont s'était servie la sainte pour nommer l'extase de vie divine, mais avec les mêmes mots ne pouvais-je nommer l'extase, coupable et passagère, de jouissance terrestre qui, de son côté, m'avait semblé si tôt après sensation de mort et anéantissement ? Je cherche à présent à raisonner sur la manière dont je ressentis, à quelques mois de distance, deux expériences l'une et l'autre exaltantes et douloureuses à la fois, et sur la manière dont cette nuit-là, dans l'abbaye, je remémorais l'une et notablement ressentis l'autre à quelques heures de distance, et encore sur la manière dont toutes à la fois je les ai revécues à présent, couchant ces lignes par écrit, et comment, dans les trois cas, je me les suis racontées avec les mots de l'expérience différente d'une âme sainte qui s'annulait dans la vision de la divinité. Se peut-il que j'aie blasphémé ? Jadis, maintenant ? Qu'y avait-il de semblable dans le désir de mort de Michel, dans le ravissement que j'éprouvais à la vue de la flamme qui le consumait, dans le désir de conjonction charnelle que j'éprouvais avec la jeune fille ? Dans la pudeur mystique par quoi je le traduisais allégoriquement, et dans ce même désir d'anéantissement jubilant qui poussait la sainte à mourir de son propre amour pour vivre davantage et éternellement. Possible que des choses aussi équivoques se puissent dire de façon aussi univoque, et pourtant c'est là, semble-t-il, l'enseignement que nous ont laissé les plus grands d'entre les docteurs. Omnis ergo figura tanto evidentius veritatem demonstrat, quanto apertius per dissimilem similitudinem figuram se esse et non veritatem probat. Mais si l'amour de la flamme et de l'abîme sont figures de l'amour de Dieu, peuvent-ils être figures de l'amour de la mort et de l'amour du péché? Oui, ainsi que le lion et le serpent sont à la fois figures et de Christ et du démon. C'est que la justesse de l'interprétation ne peut être fixée que par l'autorité des pères, et dans le cas qui me tourmente, je n'ai point d'auctoritas à laquelle mon esprit obéissant puisse se référer, et je brûle dans le doute, et voilà qu'intervient encore la figure du feu pour définir le vide de vérité et la plénitude d'erreur qui m'anéantissent. Que se passe-t-il, ô Seigneur, dans mon âme, maintenant que je me laisse prendre au tourbillon des souvenirs et que je suscite cette conflagration d'époques différentes, comme si j'allais altérer l'ordre des astres et forcer la séquence de leurs mouvements célestes. Je passe certainement les limites de mon intelligence pécheresse et malade. Allons, revenons à la tâche que je me suis humblement proposée. J'étais en train de parler de ce jour-là et de l'égarement total des sens où je m'abîmais. Voilà. J'ai dit ce dont je me souvins en cette occasion et qu'à ceci se borne ma faible plume de véridique et fidèle chroniqueur. Je restais allongé je ne sais combien de temps, la jeune fille auprès de moi. D'un mouvement léger, seule sa main continuait de toucher mon corps, maintenant moite de sueur. J'éprouvais une exultation intérieure qui n'était point la paix, mais comme la dernière ardeur étouffée d'un feu qui tardait à s'éteindre sous la cendre lorsque la flamme est morte désormais. Je n'hésiterai pas à appeler bienheureux celui à qui serait permis d'éprouver quelque chose de semblable, murmurai-je comme dans le sommeil, fût-ce rarement dans cette vie, et de fait, je ne l'éprouvais que cette fois-là, et à vive allure seulement, et pendant un seul court laps de temps. Comme si on n'existait plus, ne se sentir en rien soi-même, être ravalé, presque anéanti, et si quelque mortel, me disais-je, pouvait un seul instant et vivement goûter ce que j'ai goûté, aussitôt il regarderait d'un mauvais œil ce monde pervers, serait troublé par la malice du vivre quotidien, sentirait le poids de son corps de mort. N'était-ce pas ce qu'on m'avait appris? Cette invitation de mon esprit tout entier à perdre la mémoire dans la béatitude était certes, je le comprends à présent, l'irradiation du soleil éternel et la joie que celui-ci produit, ouvre, déploie, agrandit l'homme, et la gorge béante que l'homme porte en soi ne se referme plus avec autant de facilité. C'est la blessure ouverte sous le coup d'épée de l'amour, et il n'est rien ici-bas qui ne soit plus doux et plus terrible. Mais tel est le droit du soleil. Il crible de rayons le blessé, et toutes ses plaies s'élargissent. L'homme s'ouvre et se dilate, ses veines mêmes sont béantes, ses forces ne sont plus en mesure d'exécuter les ordres qu'elles reçoivent, mais uniquement mues par le désir, l'esprit brûle, abîmé dans l'abîme de ce qu'il touche maintenant, voyant son propre désir et sa propre vérité dépassés par la réalité qu'il a vécue et qu'il vit. Et l'on assiste stupéfait à sa propre défaillance. Ce fut sous le coup de telles sensations d'indicible jouissance intérieure que je m'assoupis. Je rouvris les yeux quelque temps après, et la lumière de la nuit, peut-être à cause d'une nue, s'était beaucoup affaiblie. J'allongeai la main de côté et ne sentis pas le corps de la jeune fille. Je tournai la tête. Elle n'était plus là. L'absence de l'objet qui avait déchaîné mon désir et rassasié ma soif me fit ressentir tout à coup et la vanité de ce désir et la perversité de cette soif. Omne, animal triste post coitum. Je pris conscience du fait que j'avais péché. Maintenant, à des années et des années de distance, tandis qu'encore je pleure amèrement ma faute, je ne puis oublier que ce soir-là, j'avais éprouvé une grande jouissance, et je ferais tort au Très-Haut, qui a créé toutes les choses en bonté et beauté, si je n'admettais aussi qu'en cette histoire de deux pécheurs, il advint quelque chose qui en soi, naturalitaire, était bon et beau. Mais peut-être Est-ce ma vieillesse actuelle qui me fait sentir coupablement comme beau et bon tout ce qui appartient à ma jeunesse, alors que je devrais tourner ma pensée vers la mort qui approche? Jeune jadis, je ne pensais point à la mort, mais à chaudes et sincères larmes, je pleurais sur mon péché. Je me levais tout tremblant, c'est qu'aussi j'avais été un long temps couché sur la pierre glacée de la cuisine, et mon corps était transi. Je me revêtis presque fiévreusement. J'aperçus alors dans un coin le paquet que la fille avait abandonné dans sa fuite. Je me penchai pour examiner l'objet. C'était une sorte de sachet fait de toile enroulée qui semblait provenir des cuisines. Je le déroulai, et sur le moment je ne compris pas ce qu'il y avait dedans, tant à cause du manque de lumière que de l'aspect de son contenu. Puis je compris. Parmi des caillots de sang et des lambeaux de chair plus flasques et blanchâtres, était devant mes yeux, mort, mais encore palpitant de la vie gélatineuse des viscères morts, sillonnés de nerfs livides, un cœur de grande dimension. Un voile sombre descendit sur mes yeux, une salive acidulée me remplit la bouche. Je poussai un hurlement et tombai comme un corps mort tombe.